Décryptage, Marie Cazadebé.
C'était vendredi dernier au Centre National d'Études Spatiales à Toulouse. Florence Parly, la ministre française des Armées, se lançait dans le récit de ce qui ressemble à un conte moderne.
Alors qu'Athéna Fidus continuait sa rotation tranquillement au-dessus de la Terre, un satellite s'est approché de lui. C'est un satellite russe, bien connu, mais un peu indiscret. Cela s'appelle un acte d'espionnage.
Un satellite russe qui tente d'espionner un satellite français, de quoi justifier le lancement de la France dans la course à l'espace. Florence Parly devrait d'ailleurs bientôt présenter une stratégie spatiale de défense pour le pays. Mais pourquoi la défense d'un pays doit-elle maintenant se construire aussi dans les étoiles? Avec qui cette course à l'espace se joue-t-elle? Et quels en sont les enjeux? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Avec nous en studio ce soir, le général Michel Friedling. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le commandant du Centre interarmé de l'espace. Vous vous occupez des questions relatives à l'espace pour les armées françaises. La guerre des étoiles est bien autre chose qu'une fiction, disait Florence Parly vendredi dernier. Mais depuis quand est-elle une réalité? Depuis quand la guerre passe par les étoiles?
Alors, l'espace a toujours été un milieu qui a été utilisé par les armées pour leurs missions. Mais pas uniquement par les armées pour leur mission, d'ailleurs, pour récolter du renseignement à des fins politiques, pour permettre l'autonomie stratégique de la France. C'est avec des images satellites et depuis des années qu'on a des situations sur les théâtres d'engagement, qu'on est capable de donner des appréciations autonomes à nos autorités politiques. C'est par les satellites que passent nos communications et qui permettent aux personnes qui sont déployées sur les théâtres d'opération, que ce soit en Afrique ou ailleurs, d'être reliées au centre d'opération à Paris ou ailleurs. Que nos bateaux qui sont en mer sont capables également de communiquer avec le centre d'opération. Donc l'espace a toujours été utilisé par les armées pour leurs opérations. Il y a également eu plus récemment l'utilisation des moyens de navigation par satellite. Je pense au GPS américain avec les précisions militaires. Donc navigation, positionnement, observation, télécommunication. Les usages de l'espace à des fins militaires sont nombreux depuis déjà longtemps.
Donc vous faites la différence entre cette guerre qui passe par l'espace ou l'utilisation de l'espace pour la guerre à cette guerre des étoiles dont fait allusion Florence Parly. Là, c'est plus récent justement qu'il y a une genre de compétition spatiale entre les grandes nations.
Oui, parce qu'en fait, on assiste, comme je disais, l'espace a toujours été utilisé, mais on assiste depuis peu à des évolutions assez rapides dans l'espace et assez importantes. Qui s'explique notamment par deux facteurs. D'abord, le premier, c'est que il y a l'arrivée de nombreux acteurs nouveaux. Qui veulent développer des services et des produits dans l'espace. L'espace devient une espèce d'Eldorado.
Là, vous parlez d'acteurs privés, en l'occurrence, des grandes entreprises.
Je parle d'acteurs privés. C'est ce qu'on appelle le New Space. Et le New Space, cet accès à l'espace qui est maintenant ouvert à des acteurs privés nouveaux, des entreprises, des entrepreneurs, c'est permis par des ruptures technologiques dans le domaine des matériaux, par exemple, dans le domaine de la propulsion qui devient électrique et qui permet de manœuvrer dans l'espace. Ça ouvre des possibilités en termes de mobilité dans l'espace, dans le domaine des communications, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans un certain nombre de domaines. Et on a donc des acteurs qui viennent proposer des services. Alors on voit arriver par exemple des satellites extrêmement petits. On a des satellites de quelques dizaines de kilos qu'on appelle des nanosatellites. Et on voit même arriver maintenant des picosatellites qui pèsent moins d'un kilo. Alors quels sont ces nouveaux acteurs du New Space? Eh bien, on a les plus emblématiques. Hein. Le plus connu, c'est par exemple Elon Musk, qui a fondé SpaceX, qui propose des lancements de satellites dans l'espace à des coûts bien inférieurs à ce qui était pratiqué auparavant et qui a complètement bouleversé le marché des lanceurs. Mais il y en a d'autres. Vous avez Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a lancé une société qui s'appelle Blue Origin et qui a des ambitions spatiales incroyables.
Ça veut dire qu'en fait, ces entreprises privées boostent aussi la concurrence, les progrès technologiques et forment une sorte d'embouteillage dans l'espace avec aussi les questions de défense nationale.
Le fait est que on voit apparaître des projets multiples de constellations de nanosatellites dans l'espace et qu'il y a un phénomène d'encombrement. On a, par exemple, je n'ai pas cité OneWeb, qui est une société également privée, qui a pour ambition de lancer une constellation de 900 satellites dans les orbites basses. Effectivement, on voit donc déjà un phénomène d'encombrement. En 2017, on dénombrait environ 1700 satellites actifs dans l'espace. En 2020, on pense qu'il y en aura à peu près 2500. et en 2025 6000. Donc on va quasiment multiplier par plus de 3 le nombre de satellites dans l'espace. Donc il y a déjà un vrai problème d'accès à l'espace, y compris pour les grandes nations, les États, les puissances et les capacités militaires.
On comprend qu'effectivement ça devienne un sujet de plus en plus complexe avec la multiplication des acteurs. Mais pour revenir aux questions de défense, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'utilisation très concrète de ces équipements spatiaux? Alors là on parle surtout de satellites dans des conflits actuels où la France est engagée, où d'autres pays sont engagés.
Aujourd'hui vous n'avez pas un théâtre d'opération où les armées françaises sont engagées, où l'espace n'est pas utilisé. L'espace n'est pas seulement un catalyseur des opérations militaires, il est une condition absolument indispensable. Comme je vous le disais, on a besoin des communications par satellite pour pouvoir relier nos hommes qui sont sur le terrain au fin fond de la bande sahélo-saharienne avec les centres d'opération, qu'ils soient en Afrique ou à Paris ou ailleurs. On a besoin absolument de l'espace et de la navigation par satellite pour nos appareils, les avions, mais également pour nos armements qui sont guidés avec précision sur les objectifs sur lesquels on est amené à tirer. Donc ce sont des exemples concrets d'application du spatial pour nos opérations.
L'espace donc qui est une conquête pour les nations mais aussi pour les entreprises privé. Petit bond dans le temps, début août, Donald Trump présentait ses ambitions spatiales pour les États-Unis.
Cela ne suffit pas d'avoir une présence américaine dans l'espace. Nous devons être capables de dominer l'espace. C'est très important. Si important que j'ai demandé au département de la Défense de lancer immédiatement le processus nécessaire pour créer une force de l'espace en tant que sixième branche des forces armées américaines, c'est une grande décision.
8 milliards de dollars sur 5 ans avec un commandement spatial d'ici 2020 pour superviser les opérations de combat. Les États-Unis affichent leurs ambitions, ces ambitions. Un mois après, c'est la France qui assurait vouloir renforcer ses capacités. Gérald Friedling, on assiste là vraiment à une sorte de course à l'équipement spatial. Quelle puissance retrouve-t-on dans cette course? Donc on entend les États-Unis, la France, on y viendra. Qui sont les grands acteurs?
Vous avez déjà les grands acteurs traditionnels de l'espace, que sont depuis toujours les Américains et les Russes naturellement, mais également la Chine, la France, l'Europe. Ces grandes nations aujourd'hui restent des grands leaders dans l'espace et dans l'espace militaire. Les États-Unis investissent chaque année plus de 40 milliards de dollars dans l'espace civil et militaire, donc ils restent de loin les plus grands investisseurs et ceux qui ont les plus grandes capacités spatiales, avec une capacité d'innovation absolument remarquable.
Pour se faire une idée, la France en est où?
On est bien loin de ça. Cette année, enfin sur le spatial militaire, sur la loi de programmation militaire, nous allons renouveler l'ensemble de nos capacités militaires, c'est-à-dire nos satellites d'observation, de communication et quelques autres capacités pour un peu moins de 4 milliards d'euros.
Quel est l'intérêt alors de faire la course en tête ou d'occuper la première position dans cette course alors aux équipements spatiaux pour les grandes nations, hein, je dis bien.
L'espace est devenu un enjeu de compétition stratégique. L'espace n'est pas seulement nécessaire aux opérations militaires et aux capacités d'appréciation, donc à l'autonomie stratégique d'un pays. L'espace sert à la vie quotidienne de tous les citoyens. Vous avez de nombreux services, la navigation, le positionnement. Quand vous cherchez quelque chose sur Internet, vous faites appel à des satellites. Madame Parly l'a dit, on estime que chaque Français, tous les jours, utilise, sans le savoir, entre 10 et 40 satellites, selon les applications qu'il utilise ou le moment de la journée. Donc il y a déjà un enjeu pour la vie quotidienne des Français qui est extrêmement important. Il faut pouvoir continuer à se positionner dans l'espace pour des services qu'ils soient civils, commerciaux, mais également pour nos capacités militaires.
Bonsoir Florent Parmentier.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, cofondateur du blog Eurasia Prospective, spécialiste des questions de sécurité et de défense. Est-ce que cette course à l'espace va transformer l'ordre mondial actuel ou simplement le maintenir? Parce que, on le disait, on retrouve finalement les mêmes acteurs dans l'espace qu'au sol.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'espace a été à la fois un enjeu de puissance et de prestige. Ça va confirmer un certain nombre d'acteurs qui sont présents effectivement dans le domaine, on les a cités tout à l'heure. Les États-Unis, quand on parle de domination spatiale, il faut savoir que 60% des dépenses mondiales en matière de spatial finalement se font aux États-Unis. La Russie est effectivement présente, et ce n'est pas un hasard si l'agence de communication de la Russie s'appelle Sputnik. C'est bien entendu un clin d'œil par rapport au lancement du premier satellite. On voit effectivement un certain nombre de nouveaux acteurs, en tout cas parmi les puissances géopolitiques. La Chine, depuis quelques années, a montré des ambitions en la matière, notamment la possibilité de pouvoir attaquer d'autres satellites depuis un satellite. L'Inde arrive, et puis on a des pays peut-être encore plus surprenants, les Émirats Arabes Unis. On peut aussi parler du cas du Luxembourg, qui a commencé à réfléchir à une nouvelle problématique, qui est celle d'aller chercher des minerais rares directement dans l'espace. Donc ça, c'est aussi quelque chose que permet en fait l'émergence de nouveaux acteurs et la concurrence économique.
Puisque là, forcément, la limite, Florent Parmentier, ce sont les moyens. On parlait de dizaines de milliards à propos des États-Unis. C'est une défense qui n'est pas à la portée de tous.
C'est une défense qui n'est pas à la portée de tous, et d'autant moins en fait que les Européens ont à la fois d'énormes compétences en matière spatiale, mais ils ont peut-être une particularité par rapport à d'autres pays, on aurait pu aussi mentionner le Japon, c'est que tout simplement l'approche européenne est très marquée par des enjeux de compétitivité, là où la plupart de nos acteurs insistent sur une forme d'autonomie stratégique et donc de souveraineté. Et de ce point de vue-là, la manière de finalement de concevoir l'espace vu de Paris, vu de Bruxelles, en tout cas vu des Européens, diffère d'un certain nombre d'acteurs au niveau mondial. Et effectivement, peut-être ce qui est intéressant dans la déclaration de Florence Parly, en tout cas dans le fait de raconter cette anecdote donc sur un cas d'espionnage sur un satellite franco-italien, eh bien, c'est peut-être de ramener l'Europe à cette question-là, qui est de dire, si on veut être sérieux en matière de sécurité et de défense, il y a des investissements à faire, et probablement ces investissements ne suivront peut-être pas les mêmes chemins qu'on a pu faire jusqu'à présent. On a pu avoir un discours présidentiel lors de la semaine des ambassadeurs en 2018 qui a été extrêmement offensif. Offensif dans la volonté finalement d'avoir une certaine forme d'autonomie stratégique au niveau européen, mais qui ne fermait pas loin de là et qui était même plutôt une main tenue par rapport à la Russie. Donc je pense qu'il faut interpréter des déclarations de Florence Parly dans cet axe-là qui consiste tout simplement dans cette militarisation de l'espace à laquelle nous allons assister, tout simplement que les Européens ne s'y prennent pas trop tard.
Alors, je posais la question au général Friedling, est-ce que cette course à l'espace ne doit pas être, pour la France en tout cas, l'occasion d'un projet européen, puisque là on parle de technologie, d'énormément d'argent, est-ce qu'il faut absolument travailler ensemble pour faire face à des géants comme la Russie ?
Déjà, je voudrais compléter ce qui vient d'être dit, aller dans le sens de ce qui a été dit. Les nations qui sont aujourd'hui des acteurs spatiaux, le nombre des nations qui sont des acteurs spatiaux se multiplie. On a aujourd'hui dans le monde plus de 40 projets de lanceurs de satellites. Et on a, curieusement, le plus gros fabricant de satellites en Europe, il est luxembourgeois. Donc vous voyez, c'est quand même assez étonnant. Ensuite, sur la volonté politique qui est affichée, il y a une volonté politique qui ne concerne pas uniquement les capacités militaires. Je crois que la volonté, très clairement, du président de la République, c'est aujourd'hui d'adresser l'ensemble du sujet spatial face à l'évolution que j'ai mentionnée, c'est-à-dire le New Space avec ses enjeux de compétitivité économique, de nouveaux entrants, et donc il y a un enjeu de compétitivité également pour la filière spatiale française, industrielle, européenne. Donc ce sujet est également adressé. Nous, au ministère de la Défense, au ministère des Armées, nous regardons le sujet des capacités militaires.
Pour qu'on comprenne bien, quand on parle de satellites, ça veut dire qu'il y a des satellites civils et d'autres à des fins militaires, ou finalement un satellite peut servir aux deux destinations, aux deux fins?
Ben ça, c'est un très bon point. Alors, nous avons des satellites qui sont 100% militaires, qui constituent ce qu'on appelle le cœur souverain de nos capacités spatiales militaires. Et nous faisons appel également à des satellites qui sont duaux, qui peuvent être d'ailleurs partagés avec d'autres nations, notamment l'Italie, l'Allemagne. Nous faisons appel à des services également offerts par des opérateurs privés, commerciaux, qui nous offrent des services dont nous avons besoin en complément de nos capacités souveraines. Mais pourquoi je vous dis que c'est un bon point? Parce que avec cette arrivée dans l'espace de nombreux acteurs, cette multiplication du nombre de satellites et la miniaturisation des satellites qui opèrent dans l'espace, nous observons des comportements qui sont inappropriés, inamicaux, voire hostiles. Et on a une difficulté qui est de savoir qui est à l'origine de ces comportements.
Je vous propose qu'on y vienne tout de suite.
Décryptage, Marie Casadebé.
Suite, dans la suite de notre décryptage sur la course à l'équipement militaire spatial avec le commandant du centre interarmé français de l'espace, général Michel Friedling, à travers l'affaire dévoilée par Florence Parly vendredi, celle du satellite français Athéna, Phidius, espionné par un satellite russe. On comprend finalement qu'aujourd'hui l'enjeu des grandes puissances est de protéger au maximum leurs équipements. Quelles menaces pèsent sur les satellites? Et on va parler d'abord des satellites français. Qu'est-ce qui peut leur arriver?
Ben, l'enjeu, puisque vous parlez de l'enjeu, pour nous en tout cas militaires, l'enjeu il est très simple. Il s'agit de conserver notre liberté d'accès et d'action depuis l'espace, mais même au-delà de depuis l'espace, dans l'espace. Ce qui est un peu nouveau dans le contexte que nous avons évoqué. Et donc, effectivement, ça veut dire que dans un premier temps, il faut savoir ce qui se passe dans l'espace. Donc, il faut pouvoir détecter l'ensemble des satellites qui sont de plus en plus petits, de plus en plus nombreux. Donc, c'est ce qu'on appelle la surveillance de l'espace, tout simplement. Et il faut savoir les caractériser, c'est-à-dire dire à qui sont ces satellites et quel est leur comportement, pourquoi ils ont un tel comportement. Et ensuite, il faut effectivement être capable de protéger nos moyens satellitaires, donc il y a un certain nombre de moyens pour ça, et puis voir de décourager des comportements hostiles. Et décourager les comportements hostiles, ça veut dire, et Florence Parly a ouvert le débat sur le sujet, ça veut dire disposer de moyens qui peuvent éventuellement neutraliser des satellites agresseurs.
Puisque là, en l'occurrence, elle a accusé donc un satellite russe de s'être rapproché très très près du satellite français. Qu'est-ce que ça peut faire finalement? Est-ce qu'un satellite russe peut capter les informations que le satellite français est censé capter? Quel est le danger finalement à ce rapprochement?
Les menaces que l'on voit dans l'espace sont multiples. On a cette possibilité-là, c'est-à-dire l'interception de signaux qui transitent par nos satellites de communication ou de données qui sont émises par nos satellites d'observation et qui peuvent être interceptées ou qui pourraient être interceptées. Alors évidemment, on a sur nos satellites militaires souverains, on a des dispositifs de protection de brouillage, donc ça c'est assez sécurisé. On a également des possibilités de brouillage. On peut très bien avoir des satellites qui sont brouillés. On a vu des satellites être aveuglés temporairement. On a vu également certains États tester des moyens de destruction d'autres satellites, donc destruction physique avec des missiles. Donc on sait faire ça aujourd'hui. Certains savent faire ça dans l'espace aujourd'hui. On peut également, puisque le satellite une capacité spatiale n'est pas seulement un satellite, mais c'est aussi des segments sol, des systèmes d'exploitation. On peut également neutraliser toute une capacité spatiale par des moyens cyber.
Une dernière question, général Friedling, il nous reste une grosse minute. Pourquoi avoir choisi ce moment finalement pour dévoiler cette future stratégie spatiale de la France? L'incident remonte à 2017. Pourquoi le faire maintenant? Est-ce qu'il y a un calendrier?
Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'espace a toujours été identifié comme un enjeu stratégique. On observe une accélération de ces phénomènes qu'on observe. Donc, il y a une prise de conscience au plus haut niveau de l'État des enjeux politiques, des enjeux économiques et des enjeux de souveraineté, de défense. Il y a une impulsion qui est donnée par le président de la République et par la ministre pour que, à la fois sur le volet civil, mais sur le volet militaire, nous mettions en mesure de relever les enjeux qui sont des enjeux extrêmement importants pour l'avenir de notre pays et de l'Europe.
Mais en quelques mots, est-ce qu'il fallait aussi répondre par un plan d'action à celui, par exemple, émis par les États-Unis, par Donald Trump? Est-ce que ça explique aussi cet enchaînement de faits?
Écoutez, je crois qu'en tout cas, Donald Trump a eu le mérite de poser une question. La réponse qu'il apporte à cette question lui est propre aux Américains. Je ne sais pas quelle réponse nous apporterons à cette question, mais il y aura une réponse parce que, encore une fois, la question est bonne et il faut y répondre.
Merci beaucoup, Michel Friedling, commandant du Centre interarmé de l'espace à Paris. Merci à Florent Parmentier qui est au téléphone avec nous, enseignant à Sciences Po, cofondateur du blog Eurasia Prospective. Et merci à toute l'équipe de décryptage, Eleonora Farad, Laura Vicenzi, Françoise Delignon et Claude Battista. L'émission continue sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Émission aussi à retrouver sur notre site rfi.fr. Restez avec nous, l'information revient dans quelques instants.